I've never been through. This all-consuming fire fuming, cursing at the moon and losing all control and crying, 'cause I think I'm falling. You bewitch me from the first time that you kissed.
Allez, vous avez écouté l'eau frais, vous allez chercher cette chanson sur le net, vous la trouverez sans souci. L'émission Acétone vient de se terminer à l'instant. Merci aux participantes et aux participants. Merci Jean-Luc.
Merci à toi, merci à tous.
Voilà, Sandra, merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Anne, merci aussi de ta reparticipation. On espère qu'il y en aura d'autres.
Et le soleil à tous, malgré toutes ces mauvais procès. Et puis, la vie est dure, mais gardez le courage dans le cœur et la solidarité avant tout.
Voilà, allez, on va finir cette émission, comme d'habitude, avec la petite phrase d'Assé. Le monde changera sans fin. N'oubliez pas d'y être ni flexible, ni adaptable, ni soumis, ni mobile, et surtout pas récupérable, ni rééducable. D'y rester face à l'injustice ingérable, indocile, ingouvernable, mutin, saboteur, sauvage, résistant et révolté. Sans oublier partisan. Allez, à que ciao, bonsoir, à la prochaine.
L'université Bordeaux-Montaigne et Sciences Po Bordeaux ont voté la mise en place du congé menstruel au sein de leur institution. Un vote dans le cadre de la Commission de formation et de la vie universitaire, la CFVU. À partir de septembre prochain, donc, les étudiantes qui se présenteront avec un certificat médical qualifiant des règles douloureuses pourront ainsi justifier leurs absences de cours dans la limite de 15 jours de congé menstruel par an. Selon France 3, le syndicat étudiant UNEF et les étudiants de Bordeaux-Montaigne avaient collecté près de 300 témoignages d'étudiantes pour formuler cette proposition et avaient récolté plus de 500 signatures en faveur du congé menstruel. Le congé menstruel qui fait son apparition dans de plus en plus d'entreprises et de collectivités pose de nouvelles problématiques dans le monde professionnel. La porte-parole du collectif Nous Toutes, Violaine De Filippis Abbat, rappelle dans l'Humanité que ces mesures doivent s'accompagner d'un droit pour toutes et tous à plusieurs jours d'arrêt maladie sans délai de carence. Une alternative soutenue aussi par la CGT pour pallier au risque de discrimination par le patronat. Et puis toujours à l'université, notez que l'UNEF Bordeaux organise une distribution alimentaire et de produits d'hygiène à l'université Bordeaux-Montaigne aujourd'hui, mercredi, entre 17h30 et 19h, pour lutter contre la précarité étudiante et sensibiliser aux problématiques que rencontrent les étudiants et étudiantes. À Bordeaux, la famille de Sandra Pla, tuée par son ex-conjoint le 2 juillet 2021, porte plainte contre l'État pour faute lourde, selon des informations révélées par France Inter. Traquée et harcelée par Michael Fallou, son ex-conjoint, Sandra Pla avait pourtant porté plainte pour violence dès janvier 2021 et déposé une demande d'ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales de Bordeaux, une demande qui avait été rejetée en mars 2021. La jeune femme avait également écrit au procureur de la République et cherchait à déposer une seconde plainte pour harcèlement fin mars, un dépôt de plainte qui lui avait été refusé et s'était transformé en simple main courante. Michael Fallou, lui, avait été placé en garde à vue le 29 juin. Il en était ressorti sous contrôle judiciaire et moins de 36 heures plus tard, il poignardait son ex-conjointe de 55 coups de couteau. Il sera jugé pour ses faits aux assises de la Gironde le 4 décembre prochain. Dans la procédure de faute lourde contre l'État, la famille reproche au juge des affaires familiales d'avoir rejeté l'ordonnance de protection ainsi que l'absence de poursuite après les nombreuses plaintes de Sandra Pla. La famille relève aussi le refus de la police d'enregistrer l'une des plaintes pour harcèlement. On rappelle que la famille de Shaïnès Daoud, tuée par son mari en 2021 également, a assigné aussi, elle aussi, l'État en justice pour faute lourde et cette affaire est toujours en cours. En Allemagne, maintenant, le groupe Volcan, un collectif Vulcan Group, a annoncé avoir incendié un pylône à haute tension dans la banlieue sud de Berlin provoquant ainsi une coupure d'électricité dans l'usine Tesla locale, propriété d'Elon Musk et de son groupe. Les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi 5 mars dernier. Selon le groupe Volcan et son communiqué, qui a été traduit en français par le site sansnom.noblog.org, eh bien Tesla estime son préjudice économique à plusieurs centaines de millions de dollars, puisque chaque jour sans production coûte 50 à 60 millions de dollars et que la production devrait mettre quelques jours à reprendre. L'usine produit à peu près 6000 SUV électriques par semaine. Le groupe Volcan, dans son communiqué, déclare, donc c'était en début mars, en cette veille du 8 mars, nous avons donc allumé un phare contre le capital, le patriarcat, le colonialisme et Tesla. Si nous voulons vaincre des géants comme Tesla, nous avons besoin de nombreuses formes de résistance. La nôtre en est une parmi tant d'autres. Et puis on termine avec une mobilisation qui a lieu aujourd'hui à Bordeaux, mobilisation européenne contre, pour le plafonnement du trafic aérien. C'est le réseau Rester sur Terre et l'Union française contre les nuisances des aéronefs qui unissent leurs forces et appellent à cette mobilisation. Aujourd'hui, donc 13 mars, dans plus de 20 villes en France ainsi que plusieurs villes européennes, leur revendication, c'est que le trafic européen soit plafonné au niveau de référence au-dessous du niveau de référence de 2019, tout en s'assurant de la diminution du bruit, de la pollution de l'air et des émissions de CO2. Le trafic aérien qui avait baissé suite à la pandémie de Covid-19 et qui a aujourd'hui retrouvé son niveau de 2019. Donc, à Bordeaux, le rendez-vous, il est à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, devant le hall d'embarquement qui se trouve au niveau de la station aéroport du tram A. Et c'est entre 17h et 19h aujourd'hui. Midi 15 sur la clé des ondes, on revient maintenant sur la journée du 8 mars. Bonjour Myriam.
Bonjour Baptiste.
Tu étais dans la manifestation féministe vendredi dernier à Bordeaux.
Vendredi dernier s'est tenue la marche féministe du 8 mars, organisée par l'Assemblée Générale Féministe de Gironde. Selon l'intersyndicale, plus de 8000 personnes ont défilé à l'occasion de cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette année, de nombreux drapeaux palestiniens ont fleuri dans les rangs des manifestants et des manifestantes. Et avant le départ du cortège, les prises de parole féministes ont été ponctuées par de nombreux appels au cessez-le-feu à Gaza. À ce sujet, on écoute tout de suite Caroline et Marie, membres de l'AG Féministe.
Ça a toujours été intégré au combat féministe. Ce qu'on a dit dans les émissions diverses émissions de radio, c'est qu'on ne peut pas être féministe et vouloir juste perpétuer les autres oppressions. Donc on est féministe, on est antiraciste, on est anticolonialiste. Les événements, la guerre en cours, le génocide en cours, bien sûr qu'on est contre, bien sûr qu'il faut y mettre fin. Donc depuis la manifestation du 25 novembre où on avait une banderole clairement en défense du peuple palestinien, on maintient cette ligne.
Là c'est important aussi de se positionner parce que souvent on a une vision du féministe blanc un peu de complètement à l'ouest des luttes sociales en cours et c'est pas le cas. Et autant l'an dernier on était très axé sur la réforme des retraites parce que c'était l'actualité, là c'est la Palestine parce que ça fait sens aussi pour nous.
J'ai aussi croisé Lisa, étudiante en sociologie de 20 ans, qui était drapée d'un drapeau palestinien. Elle nous explique pourquoi c'était important pour elle de porter ces couleurs.
Pour moi, à chaque fois qu'il y aura une manif, une représentation d'une minorité ou quoi, il faudra toujours rappeler aux gens que c'est pas fini. On en a beaucoup parlé à la télé, sur les réseaux et tout, et je vois qu'en ce moment, ça s'essouffle. Les gens, ils ont été engagés 3 semaines et maintenant, plus personne n'en parle, de moins en moins. Donc c'est juste pour rappeler, en fait. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres gens qui en avaient, donc c'est cool, j'avais peur d'être la seule à venir comme ça, mais non, au final.
Il faut tout de même rappeler, Baptiste, que le contexte au Proche-Orient a cristallisé les tensions lors du 8 mars, notamment à Bordeaux. Avant que la manifestation ne débute, une vingtaine de femmes du collectif Nous Vivrons ont brandi des pancartes pour dénoncer les viols subis par des femmes israéliennes lors des attaques du Hamas en octobre dernier. Elles ont été repoussées pacifiquement par le service d'ordre de l'AG Féministe. Marie, que nous avons déjà entendue tout à l'heure, nous explique pourquoi.
Alors déjà, c'est une journée de lutte et de grève féministe, donc on part du principe que les organisations d'extrême droite sont interdites dans nos manifs. Et Nous Vivrons, c'est une organisation qui tend à l'extrême droite, donc déjà, rien que ça, c'est la limite. En plus, c'est une organisation qui est islamophobe, qui ne reconnaît pas le génocide de Gaza, qui, en dénonçant les crimes de guerre qui ont eu lieu en octobre, par le Hamas, essaye de rabâcher toute une propagande anti-palestinienne qui légitime le génocide et pour nous c'est pas possible. Voilà. Et donc on a dit que dans le cortège féministe n'étaient les bienvenues que les personnes qui, un, reconnaissaient qu'il y a un génocide en cours à Gaza, parce que c'est trop grave. Et en plus, l'extrême droite n'est jamais été la bienvenue et n'est pas la bienvenue, et même la droite en règle générale. Donc voilà, donc c'est pas possible, pas de poche dans nos manifs, pas de terre dans nos manifs, pas de personnes qui légitiment des génocides.
À la suite de cette journée, le collectif Nous Vivrons a dénoncé cette exclusion par voie de communiqué de presse en critiquant le positionnement politique défendu par l'AG féministe. Dans un communiqué diffusé la veille, l'AG avait déjà justifié sa décision tout en rappelant que les crimes du 7 octobre étaient, je cite, « intolérables » et qu'elle condamnait l'utilisation du viol comme arme de guerre. La liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, a été inscrite dans la Constitution ce vendredi 8 mars. Une date symbolique choisie par le président de la République pour proclamer cette nouvelle loi. On écoute maintenant la réaction de la sénatrice écologiste de la Gironde, Monique de Marco, qui s'était félicitée de ce vote au Congrès.
Je pense que bien sûr, le président et le gouvernement vont s'emparer de ce sujet pour en faire justement aujourd'hui de la communication. Mais enfin, qu'importe, il faut passer outre la communication et se dire que néanmoins, on a obtenu quelque chose de très important. Premier pays au monde donc, à inscrire donc, le droit à l'IVG dans la Constitution. Et également, je pense que ça fera boule de neige et ça met bien sur le devant de la scène un peu les combats féministes depuis plusieurs années. Que les femmes ont mené et c'était quand même un aboutissement. Mais il ne faut pas lâcher parce que maintenant, il va falloir avoir des moyens pour mettre ceci en œuvre. Et on voit bien dans les milieux ruraux qu'il y a des problèmes d'accès à l'IVG, qu'il y a donc des déserts médicaux, qu'il y a des difficultés. Donc maintenant, deuxième étape, il faut demander donc, lors de la loi de finances rectificative des moyens complémentaires.
Un combat pour l'accès à l'IVG qui se poursuit donc depuis la loi de dépénalisation de 1975 portée par Simone Veil, une figure féministe toujours présente chez la jeune génération, à l'image d'Emma, jeune lycéenne de 17 ans, qui raconte 50 ans après l'importance de Simone Veil à ses yeux.
L'an dernier, moi, j'ai fait mon oral sur elle et j'ai eu 100 sur 100. Et elle m'a beaucoup aidée aussi à me motiver. Intérieurement et tout, et elle a fait bouger des choses même en moi et même dans ma famille, dans mes proches, avec mes amis et tout, et même elle m'a fait pleurer, clairement.
La fin du parcours de cette marche féministe a été aussi marquée par une action du collectif Collage Féministe Bordeaux. Une banderole a été déroulée sous l'arche de la porte de Bourgogne où les manifestants et les manifestantes ont pu lire les noms des plus de 900 victimes de féminicides recensées depuis 2017, c'est-à-dire le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. J'ai tendu mon micro à Elisa et à Ambre, deux jeunes femmes de 19 ans, encore très émues après leur moment de recueillement.
Et je trouve ça très très fort. Ça fait, je sais pas, ouais, y a une espèce de boule qu'on n'a pas avec les chiffres qu'on nous montre à la télé ou quoi. On est là, ah ouais, quand même et tout, mais là on le voit directement. Quoi. C'est très différent.
Aussi, ça fait froid dans le dos. Enfin, vraiment, moi, c'est quand je suis arrivée devant, c'est oula.
Et puis, on voit que c'est tout le monde, ça va de 13 ans à 12 ans à 70 ans. Et on se dit, bah ah ouais, c'est partout. Ouais.
Là, c'est vraiment hyper concret. C'est devant nous. Hein. De toute façon, on ne peut pas le rater, là, aujourd'hui. Et oui, c'est très bien d'avoir fait ça, parce que c'est très parlant. Là, on ne peut pas faire plus parlant. Ouais. Et en plus, avec les bougies, là, par terre, oui. Merci à elle d'avoir fait ça, quoi.
Alors il faut savoir que la veille, les murs situés près de la porte de Bourgogne avaient aussi été recouverts par les colleuses des 134 noms de victimes de féminicides de 2023. Le matin du 8 mars, tous les collages avaient été enlevés et les murs entièrement nettoyés. Alex a participé à ce collage qui s'est déroulé dans la nuit du 7 au 8 mars. On l'écoute.
L'année dernière, c'était donc le collage a été fait au Cacons et il avait été aussi nettoyé très vite l'après-midi. Le lendemain après-midi, il commençait à être nettoyé. Là, ça a été encore plus rapide. Donc c'est bien, on n'a même plus besoin d'avoir les fachos pour enlever nos affiches. Hein, la mairie le fait pour nous, enfin pour eux surtout. Et bah, c'est d'autant plus dommageable, hein, 8 mars, d'enlever le nom de ces femmes, de ces féminicides qui ont eu lieu en 2023. De juste enlever ça comme si c'était rien, même pas nous laisser ça au moins pour la journée. Mais bon, on a l'habitude malheureusement d'avoir nos collages décollés, mais c'est vrai que c'est toujours décevant de voir que c'est de plus en plus rapide.
Après avoir été interpellé sur les réseaux sociaux par le collectif Collage Féministe Bordeaux, le maire Pierre Urmic a fini par préciser qu'il n'avait pas donné l'ordre au service de nettoyage de décoller ses 134 affiches. Il a également présenté ses excuses, rappelant que ce combat était aussi le sien. Et puisqu'ils n'y sont plus, je vous propose de nous quitter en écoutant les noms de quelques-unes de ces victimes, scandées vendredi dernier par une militante féministe. Merci à tous.
Geneviève, Amélie, Edina, Malgortaza, Amélie, Caroline, Cindy, Hélène, Sylvie, Audrey, Giovanna, Manon, Fatima, Alima, Siani, Laurence, Marina, c'est trop.
Les femmes hors du monde reléguées, que vous, femmes esclaves, éprisez en nos entraves, debout, seul dans.
Et merci beaucoup Myriam pour ce reportage donc dans la manif du 8 mars. C'était vendredi dernier à Bordeaux. Et puis il est midi 25 sur la Clé d'Onde, on va continuer avec un petit peu de musique.
Cuna con nombre de virgen, bajo la luna todos los santos la bendicen, de mal casaña rejuntada o eso dicen, tiene malaje y mal carácter como toda su estirpe. Madruga tras la faena un padre nuestro, enfadada con Cristo besa la medalla al cuello, vestido de lunares y flores en su pañuelo, traguito el suelo y pa'lante no hay tiempo pa' duelo. Acostumbrada a echar un puñeto más al puchero, come su sangre, come su calle y el barrio entero. Carmen sabe de dolores, del amor de sus mujeres, de lo malo de la noche y del veneno. Con esos andares saben lo que fue de joven, conocen en la calle sus cantares por la lole. Se ensucia las manos que ninguna madre llore, por los costales raja y sale la rabia de pobre.
Dicen que nada le duele, porque no la ven llorar. Y a tu corazón y al suyo lo debieran de escuchar.
Tiene miedo, ella ya estuvo en los infiernos. Sobre la tumba ese diablo le bailó. Por cuatro duros calentaba los inviernos.
Y por su mamá los chiquillos nunca le faltó. Ahora en la casa amor, en la calle respeto. Gana su chito en cinco y baja al parque con el nieto. Ya se ganó su puesto, al resto más vale les guarden.
No hay quien les toque, la familia la Carmen.
Se paren para la puerta de su casa abiertas, que las gitanas vienen a pedir consejo. Saca el café y una libreta para la cuenta. Dice que los saberes compartidos llegan más lejos. Con la frente marchita ya no piensa en volver. Aroma romero y los dineros guardan el sostén. Ya no hacen daño los vestigios del ayer. Con los suyos bendecidos al río tira un clavel.
Dicen que todo le duele y al alba.
Carmen, Carmen, Carmen,
¡sáltate!
Carmen de Tribadé et Maroucha Limon avec un mauvais accent sur la clé des ondes. Midi 29 dans le plat de résistance, on continue et on s'intéresse maintenant à la lutte contre la LGV, la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse-Bordeaux-Dax, avec un nouveau collectif qui pointe le bout de son nez, qui a été créé en février dans le Réolais. C'est le collectif LGV d'Esraya et c'est Léa Perron qui a interviewé une de ses membres qu'on écoute tout de suite.
Je m'appelle Léonie Ré. Je suis habitante de Pondora, donc pas très loin de la Réole.
Est-ce que tu pourrais me présenter du coup ton collectif LGV d'Esraya ? De quel constat il est né ?
Effectivement, le collectif il est né vers Pondora et Pondora et Puy-Barban, qui sont deux petits villages donc pas très loin de la Réole. Il a été créé à l'initiative de juste quelques habitants qui se sont rendus compte que vers chez nous, on est très peu informés du projet de LGV parce qu'on n'est pas sur le tracé. Et ceci dit, même des gens qui sont sur le tracé sont très peu informés, en fait. Mais voilà, les gens d'ici se sentent très peu concernés, quoi. Et donc, on a été quelques-uns à se dire, ça va pas, il faut qu'on contacte, en fait, qu'on organise une réunion publique au début dans nos petits villages pour informer les gens tout simplement de ce qui se passe, des différents impacts même sur nos territoires qui sont pas non plus sur le tracé. Mmh. Et donc on a organisé cette réunion publique à la Réole en se disant on va pas faire juste dans nos petits villages, on va essayer de faire un truc un peu plus gros dans la ville la ville du coin, quoi. Mmh.
On y reviendra après sur l'événement qui a eu lieu le 16. Donc vous, votre objectif avec le collectif, c'était vraiment d'informer les habitants et les habitantes du Réolais. Je voulais revenir un petit peu sur toi, ton collectif LGV d'Esraya, qui fait partie d'un ensemble de collectifs locaux qui se sont constitués contre les nouveaux projets de LGV, des lignes à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, et Bordeaux et Dax. C'est donc tout un tas de collectifs qui se sont créés tout le long du tracé, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout le long du tracé, et du coup pas seulement avec le nôtre, mmh. On s'en éloigne, mais effectivement on est de plus en plus nombreux, il y a des collectifs qui existent depuis le tout début du projet, donc depuis 2006, ça commence à remonter, et de nouveau se crée encore actuellement, et avec le début des travaux préalables, les gens qui s'opposent à ce projet se multiplient, quoi. Et effectivement, tous ces collectifs sont regroupés sous la bannière de l'intercollectif LGV Non Merci, qui fait le lien entre les différents collectifs, qui rassemble toutes les informations et qui s'occupe de distribuer il permet de à la base, en fait, c'était la création d'un site LGV Non Merci qui regroupait l'ensemble des informations. Ce site, il est accessible en ligne par tout le monde, il est très bien fait et il permet justement de voir toutes les actualités, tous les tenants et les aboutissants de ce projet, quel que soit le lieu sur le tracé ou pas, très général. Et donc il permet aussi de faire le lien entre les différents collectifs. Mmh.
Actuellement, il y en a combien ? Tu en comptabilises combien des collectifs anti-LGV ?
Il y en a beaucoup. Alors, j'ai pas le nombre en tête. Il y a des collectifs qui se sont créés uniquement pour ça. Je pense que là, il y en a au moins une trentaine, je dirais. Mais après, il existe pas mal de collectifs qui étaient déjà existants, qui se battent sur des questions environnementales en général et qui ont pris le sujet de la LGV un peu comme une priorité, mais qui ne traite pas que de ça. Et il y a aussi des gros collectifs qui s'opposent, collectifs ou associations d'ailleurs, qui s'opposent au projet de LGV officiellement, mais qui ne traitent pas que de ça. Je pense par exemple à ANV COP 21, donc à Action Non Violente, à la Confédération Paysanne, à Terre de Liens. Voilà, ça c'est des associations nationales qui rejoignent la lutte.
Pour revenir un petit peu sur ce projet, enfin ces projets de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'il en est et quel est le projet du gouvernement ?
Alors, effectivement, le projet du gouvernement, c'est donc d'ouvrir une double ligne à grande vitesse, j'ai envie de dire, donc qui partirait de Bordeaux pour aller d'une part à Toulouse. Et entre Bordeaux et Toulouse, il y a le petit village de Bernos-Bolac, qui serait le lieu d'un carrefour. Et à ce niveau-là, donc, la ligne se diviserait en deux, avec une partie qui irait vers Dax. Ce projet-là, il devait coûter avant inflation, donc je crois que c'était en 2014, ils avaient estimé un budget à 14 milliards d'euros. On ne parle pas de millions, on parle de milliards. Ça, c'était avant inflation, donc ça va probablement doubler. Aujourd'hui, les travaux préparatoires ont commencé. Alors, ils ne parlent pas de travaux, ils parlent de travaux préparatoires parce que les travaux officiellement ne peuvent pas commencer. Ce serait illégal parce qu'il y a encore des recours en cours, des recours juridiques, des recours administratifs. Il y a une enquête publique qui a été lancée en 2015, il me semble, il me semble que c'était 95% de la population a prononcé un avis défavorable à ce projet.
90%, il me semble.
Alors, ouais, 90, il y a eu un peu plus de personnes encore depuis, et je crois que ça a augmenté. Et il y a aussi 5 collèges d'experts qui ont été interrogés, et les 5 se sont prononcés défavorablement. Mmh. Donc sur les aspects financiers, environnementaux, etc. Donc aujourd'hui, le projet, il est finalement un peu stoppé par ses recours. On ne sait pas vraiment, à part le président de la région Rousset et la présidente de la région Occitanie, donc région Nouvelle-Aquitaine et région Occitanie Rousset et Delga, et quelques personnes, finalement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui se prononcent contre. On ne comprend pas bien pourquoi ce projet continue, mis à part pour renflouer les poches de grands entrepreneurs comme Vinci, Lafarge et compagnie. C'est un questionnement au niveau des citoyens qui est quand même... Comme tous les gros projets actuellement, hein. C'est un projet d'un autre temps. Il a été imaginé dans les années 90. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout à devoir gagner quelques minutes sur des trajets. Ce projet n'a aucun sens, en fait. Ce serait un désastre environnemental, social, d'un point de vue démocratique aussi, parce que du coup, on n'est pas du tout entendu et c'est seulement une partie de la population qui doit payer pour un trajet qui serait utilisé par quasiment que des métropolitains, finalement des gens qui voudraient aller un peu plus vite, juste gagner quelques minutes entre Paris et Toulouse. Mmh. Donc les gens qui sont sur le tracé et qui payent pour cette construction, pour ce projet, n'ont aucun intérêt là-dedans, quoi. Donc c'est pas démocratique, c'est pas... Voilà, ça n'a pas de sens.
Et voilà, donc on rappelle encore le site bien complet avec plein de ressources, lgvnonmerci.fr, que les gens peuvent aller consulter. Et donc je rappelle, Léonie Ray, toi tu fais partie du collectif LGV d'Esraya. Et je te remercie pour cet échange.
Merci à toi.
Merci beaucoup à Léonie Ray et merci à Léa Perron pour cette interview. C'est la fin de notre point chaud pour aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter en podcast sur laclédesondes.fr. On se donne rendez-vous demain à midi pour le plat de résistance et de nouvelles infos. D'ici là, ce soir à 21h30, vous avez rendez-vous avec Moëz pour Trait d'Union jusqu'au bout de la nuit. Et avant ça, à 19h sur La Clé des Ondes, c'est au tour de l'autre parloir en compagnie de Lulu. Bonne soirée sur 90.10 et sur laclédesondes.fr.
La danse de la limonade. Dimanche matin, j'étais tout mouillé maman. Passez mon verre de limonade.